Le président turc Erdogan a menacé le 23 octobre dernier d'expulser 10 ambassadeurs, dont celui de la France. Ces ambassadeurs ont eu l'outrecuidance de lancer un appel en faveur de la libération de l'opposant Osman Kavala. Celui-ci est accusé d'avoir cherché à renverser le gouvernement. La Cour européenne des droits de l'homme a beau rappeler pourtant depuis des années que les charges qui pèsent contre lui sont inconsistantes. Mais à peine acquitté, le gouvernement invente de nouvelles charges contre ce mécène turc. Cet acharnement contre cet homme remonte à la tentative du putsch en juillet 2016. Cet événement a servi de purge des intellectuels, des magistrats, des universitaires, des artistes et des journalistes. En Turquie, ceux qui s'approchent trop près du pouvoir et émettent la moindre critique du gouvernement risquent de passer par la casse-prison. Les lois sont appliquées selon une conception de la justice très accommodante pour celui qui veut se maintenir au pouvoir. Les lois sont distordues. Elles ne viendront pas au secours des prisonniers politiques. Alors comment faire face à ces décisions arbitraires qui volent votre destin? Comment vivre enfermé entre quatre murs quand on ne sait pas si on sortira un jour, alors que les charges qui pèsent contre vous sont des mensonges? Que faire en prison? Avec un immense courage, une résistance hors du commun, certains prisonniers arrivent à faire entendre leur voix. Et parmi tous ces écrits de prison, ceux de l'artiste et journaliste Zehra Doğan retiennent notre attention aujourd'hui. Ils révèlent une force exceptionnelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cordel. Ce podcast est consacré aux femmes de lettres, à celles qui nous montrent le chemin. Plongeons dans la mémoire et l'imagination d'une écrivaine surprenante. Découvrons ensemble son parcours, son quotidien, son style, ses inspirations et ses combats. Aujourd'hui, partons sur les traces de Zehra Doğan. Allez vous préparer un chai bien chaud et écoutons son histoire. Emprisonnée pendant presque 3 ans pour ses dessins, Zehra Doğan est une journaliste, militante et artiste kurde dont les écrits de prison constituent un témoignage crucial et émouvant. Zehra Doğan est née en 1989 à Diyarbakır. Cette ville est considérée comme la capitale historique et culturelle de l'ensemble de la nation kurde. En 2012, Zehra Doğan fonde la première agence d'information des femmes en Turquie du nom de Jinya. Elle est notamment l'une des premières journalistes à interviewer les femmes yézidis qui avaient échappé à Daesh. En juillet 2016, la journaliste est accusée de propagande en faveur d'une entreprise terroriste. Elle est arrêtée pendant 5 mois, puis placée sous contrôle judiciaire. Elle organise une exposition qui ne plaît pas au gouvernement et elle est de nouveau incarcérée de juin 2017 à février 2019. Partir sur les traces de cette journaliste et artiste, c'est donc faire un saut dans les cachots turcs, dans les prisons de Diyarbakır. Mais pour comprendre le parcours de Zehra Doğan, il faut se pencher sur l'histoire de la Turquie, surtout si vous n'êtes pas familier de ce passé. Suite au coup d'État fomenté par Kenan Evren en 1980, la junte militaire a pris le pouvoir et la répression contre les oppositions est sans commune mesure. Dans les prisons turques, notamment dans la tristement célèbre prison de Diyarbakır, la torture est régulièrement pratiquée. Un processus de paix est engagé entre la Turquie et le Parti des travailleurs du Kurdistan, appelé aussi PKK, après un cessez-le-feu de quelques années. Mais en 2015, ce processus de paix est abandonné. En tant que journaliste, Zehra Doğan couvre alors la reprise du conflit armé. Elle se rend par exemple à Nusaybin ou à Derik, et elle dessine ce qui se passe. Ce sont ses dessins qui la font passer pour une terroriste aux yeux du gouvernement turc. Elle se retrouve incarcérée avec les prisonniers politiques. La journaliste va recevoir de nombreux soutiens, notamment du Pen Club International, du peintre chinois Wei Wei ou de l'artiste Banksy. Ce dernier a même créé à New York une gigantesque fresque en son hommage, Free Zehra Doğan. Zehra Doğan n'est pas une prisonnière politique comme les autres. Des 600 jours d'incarcération, Zehra Doğan va en faire 2 ouvrages. Sa première publication rassemble les lettres que la journaliste échange alors qu'elle est en prison avec son amie Naz Öke qui vit en France et qui est elle aussi journaliste. Cette correspondance décrit les conditions d'incarcération entre torture et maltraitance, mais aussi la solidarité qui existe entre les co-détenus. Ce qui est le plus frappant dans ces pages, c'est d'apprendre que même des enfants de 2 ans sont incarcérés. Ces lettres ne font pas seulement le récit du quotidien. L'auteur y développe une longue réflexion sur la liberté d'expression et le patriarcat. Ce livre de témoignage est publié aux éditions des Femmes en 2019. Sa deuxième publication reprend ce récit de prison, mais sous le format d'un roman graphique, ce qui montre de manière encore plus percutante les conditions d'incarcération. Elle a l'idée, en prison, de créer cette bande dessinée pour raconter ce qui s'y passe, pour résister, pour fuir les blocs de béton qui la retenaient prisonnière. Zera Doan réalise secrètement cette BD, avec les moyens du bord. Le matériel est interdit. Et ses dessins sont systématiquement détruits quand ils sont trouvés par les gardiennes. Alors, pour créer ses œuvres, Zera utilise ce qu'elle a sous la main. Des grains de café et même son sang menstruel. Ce sont des conditions de création sidérantes. Pour les supports, elle dessine partout, sur des serviettes, des draps ou sur les habits que sa mère lui apportait et qu'elle faisait sortir comme si c'était du linge sale. Donc, elle dessine et écrit en se cachant des gardiennes. Alors, cette BD ne parle pas seulement du quotidien, mais revient sur l'histoire de la lutte armée kurde, celle du PKK. Pourquoi une telle haine entre les Turcs et les Kurdes ? Pourquoi parler kurde peut vous faire passer pour un terroriste ? Elle raconte dans ses planches l'histoire des prisons turques dans les années 80, les nombreuses atrocités commises, surtout envers la communauté kurde. Donc, cette bande dessinée est publiée en mars 2021 aux éditions Delcourt. Zera Doan se bat avec ses mots et ses dessins pour la liberté d'expression et les droits humains, la liberté des femmes et des Kurdes. Pourtant, cette lutte, elle ne l'a jamais voulu, paradoxalement. Dans une récente interview, elle dit ceci : les artistes qui parlent d'une guerre s'engagent depuis leur zone de confort, notamment celles et ceux qui ont grandi et vivent en Europe ou aux États-Unis. Ce sont des personnes politiques parce qu'elles ont véritablement choisi d'attirer l'attention sur ce qui se passe à un endroit particulier. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas choisi de parler de cette guerre. Il n'est pas confortable pour moi de le faire. Les œuvres que je produis sont politiques car elles sont un témoignage, une réponse à la violence que j'ai subie sur les terres d'où je viens, à l'endroit où je vis. Mes œuvres sont politiques parce que les choses que j'ai vécues m'ont transformée. J'ai dû résister aux violences qui sont venues à moi, d'une manière ou d'une autre. Je ne produis pas dans l'intention de faire des œuvres politiques, pour attirer l'attention ou pour faire prendre conscience de quelque chose. Je le fais en tant que personne qui a vécu toutes ces choses, en tant que victime de cette guerre. Je n'ai rien choisi. De fait, mes œuvres sont politiques, mais sans ça, elles ne le seraient peut-être pas. Vous l'aurez compris, Zera Doan ne veut pas être le symbole d'une lutte, être une héroïne. Dans ce podcast, on aime parler de la routine que les écrivaines mettent en place pour créer et écrire. Mais la routine de Zera Doan ne ressemble à celle d'aucune écrivaine. Produire ses œuvres relève de l'exploit. Elle manque de temps, de matériel. Pour ses écrits de prison, elle explique qu'elle a dû écrire sous la lumière de la lune, car le jour, elle doit travailler dans la prison. Et quand bien même elle aurait un peu de temps, elle est sans cesse dérangée par des bruits de portes en fer, des gardiens, des loquets, des annonces des haut-parleurs. Elle dit écrire à la lueur de la lune, de cette beauté, dira-t-elle, de ce disque éclatant et énorme entouré d'écume ornée de nuages. Elle écrit dès qu'elle peut. Écrire lui permet de résister, de ne pas sombrer dans le désespoir. Zera Doan peint et décrit ce qu'elle a sous les yeux, ce qu'elle vit. Mais elle trouve également ses inspirations dans le récit de ses codétenus dont elle se fait la porte-voix. À travers Zera, on entre dans l'intimité de très nombreuses femmes. C'est ce qui fait que son témoignage est aussi riche et émouvant. L'artiste base également sa documentation sur le témoignage de Mossafer Hayata, emprisonné dans les prisons d'Ahmed à Diyarbakır dans les années 80. C'est une prison très symbolique pour le peuple kurde, puisque c'est l'un des endroits où les pires actes de torture et mauvais traitements ont été infligés. Les pages 56 à 70 du roman graphique sont effroyables. Zera Doan liste les pires tortures qui ont été commises. On vous passe sous silence le détail de ces atrocités, lisez le roman graphique par vous-même, vous verrez bien. En plus des tortures, Zera Doan parle des tentatives d'assimilation. Il était interdit de parler kurde, on forçait les détenus à participer à des marches militaires, à chanter l'hymne turc ou des chansons fascistes. Même dormir était interdit si vous n'étiez pas autorisé à le faire. Les prisons des femmes sont tout aussi violentes. Les gardiennes ont imposé le port de l'uniforme obligatoire, elles pratiquent des fouilles à nu, on impose aux prisonnières des salutations militaires et des caméras ont été installées dans les blocs de détenus. Ces tortures commises dans les années 80 ont été dénoncées. Même si elles sont un peu moins violentes aujourd'hui, elles perdurent. Parler de l'histoire carcérale de la Turquie, c'est donc parler de résistance. Comprendre la prison de Diyarbakır, raconter son présent, c'est forcément parler du passé et de la résistance qui est née dans les années 80. Alors, les femmes emprisonnées ont très vite résisté à toutes ces violences, par la grève de la faim, par des manifestations de seins nus ou des destructions des appareils de vidéosurveillance. La force du témoignage de Zehra Doğan tient à ce subtil équilibre entre son regard critique de journaliste sur les événements et son regard de femme qui subit la violence qu'elle décrit. Elle évite de tomber dans le pathos et elle ne fait pas passer les résistances pour des héroïnes. Elle garde une certaine distance avec toutes les atrocités décrites, ce qui permet au lecteur, très éloigné de cette horrible réalité, d'avoir le courage de la regarder en face. Elle prend le lecteur par la main. Et son témoignage se nourrit de réflexions philosophiques et politiques qui, encore une fois, lui permettent de prendre de la hauteur avec ce qu'elle vit. C'est pourquoi son style est percutant et poignant. Maintenant que l'on en sait un peu plus sur son parcours, ses combats et son style, lisons quelques extraits. Extrait numéro 1. 29 mai 2018. Cher Naz, la nuit. Pleine lune au-dessus de nos têtes. Je me mets à t'écrire sous la lumière. Elle brille tellement joliment. Elle n'a même pas réussi à se cacher. Elle est derrière les nuages, mais son halo la dévoile dans toute sa nudité. Si belle, si précieuse, toute blanche. Sa lumière perce les nuages, se disperse partout et crée une ambiance étrange, une magie transparente. Comme si j'étais dehors, quelque part, il y a des milliers d'années, et que depuis le zénith, je regardais cet instant. Sa lumière embellit tellement ses barbelés hideux. Cela m'amène à penser à la raison du dégoût qu'on peut ressentir devant la laideur. En fait, en regardant bien, les barbelés ne sont pas si disgracieux. Enchevêtrés, mis en forme par l'intervention humaine, ils se tiennent là, silencieux et calmes, offerts à l'émotion. Simple barbelé, objet dont le nom, à peine prononcé, fait se refermer nos visages et dire « c'est moche ». Objet utilisé pour marquer les frontières, diviser, définir les espaces et qui, dès qu'on outrepasse les limites, nous punit de ses pointes. Mais je m'arrête et je regarde maintenant. Et cet affreux fil de fer orné de piques me paraît si innocent et inoffensif que je n'arrive même pas à être en colère contre lui. Il a l'air de dire « Je n'y suis pour rien, c'est eux qui m'ont rendu comme cela ». J'ai l'impression de découvrir son aspect naïf et pur. Comme une femme à la dérive, dans le courant de l'idéologie qui la marchandise depuis des milliers d'années et qui se révolterait soudain en disant « Je n'y suis pour rien, ce sont les hommes qui m'ont rendu ainsi ». Le cri serait le même. Alors, en qualifiant ce fil barbelé de lait, ne commettrais-je pas une injustice ? Comme ils sont intervenus sur tout, ils ont joué aussi avec sa chimie et l'ont installé sur nos têtes. Cela me démontre que se retourner sans cesse contre lui, le regarder pour le maudire, c'est se tromper de cible. Cette nuit, ces barbelés sont tellement innocents. Lavés par les rayons de lune, leurs ombres se projettent sur les murs de la promenade, comme des femmes qui dansent. Ils brillent de plus belle, les barbelés sans vie, les sentinelles de ma condamnation. Ce soir, je suis de méchante humeur. Ils m'ont encore confisqué ma peinture. Enfin, pour dire peinture, il faut le faire. Des couleurs faites de café, d'herbe et de fiente. Chaque fois, ils ouvrent les couvercles des bocaux et disent avec l'air d'avoir trouvé l'arme chimique de Saddam Burke et ils les confisquent. À chaque fois, je suis sur le point de jeter l'éponge, mais quelque chose en moi me pousse pourtant et je me remets à créer. Extrait numéro 2. 1er novembre 2017. Dans notre quartier, règne toujours une polyphonie et une voix de contre. Le ramdam se déclenche d'un coup, le volume des phrases monte sur différents tons, gratte les oreilles. Et soudain, tout le monde se disperse sur des lits, bien avant l'heure du repos, et commence à discuter, en murmurant cette fois avec ses amis. Comme si nous essayions de briser le froid de la nuit avec des mots chauds et humides, embués de murmures. Ici, Les faits et les réalités sont comme frères et sœurs. Quand les choses sont vécues, elles prennent des formes et des aspects selon le moment où elles arrivent. Rien n'est jamais comme le moment d'avant. Extrait numéro 3, 25 octobre 2018. Chère belle femme aux cheveux roux, rien qu'en commençant à t'écrire, je me sens déjà mieux. J'aurais voulu t'écrire dès mon arrivée. Une petite voix en moi me dit que dès que tu as su que nous avions subi un transfert forcé, tu as paniqué. Moi aussi, c'est une épreuve difficile que de quitter l'endroit où l'on se trouve sur décision de je ne sais qui et de partir en vitesse sans pouvoir dire adieu à ses amis. Ils ont remis la liste des prisonnières transférées par l'intermédiaire du guichet. Il y avait là les noms de 20 amis et nous avons été transférés à un endroit où je ne voulais absolument pas aller, mais alors pas du tout. Ça a été très dur pour Onesat. Au moins, à Dirbaker, sa famille venait la voir. Et comme nous sommes bien loin maintenant, ce ne sera plus possible. J'ai passé le trajet noyé dans un océan de tristesse. Nous avons fait un voyage de 9 heures dans le ring bleu, menotté aux mains. Je laissais derrière moi ma ville natale. Je me suis levée pour regarder une dernière fois la ville à travers la petite fenêtre du véhicule. Quelque chose se brisait en moi, en nous toutes aussi. Les amis ont chanté durant tout le voyage. Il y avait là un militaire qui ne supportait pas qu'on chante. Il hurlait « Sale terroriste, ne chantez pas !» Et étrangement, ses collègues l'ont fait taire. Sur la route, nous avons vu des gens qui travaillaient dans les champs. Certaines s'arrêtaient et regardaient passer le ring. Je me demande si elles ou ils ont imaginé qu'à cet instant, nous aurions tellement voulu être à leur place. Dans ce ring étroit, mains attachées, nous avancions vers un tout autre endroit et nous regardions dehors, à tour de rôle, par la toute petite fenêtre avec des yeux curieux. Extrait numéro 4. 8 décembre 2018. Nuit, minuit 45. La nuit encore. Je t'écris une fois de plus dans l'obscurité, à la lumière de la lune qui s'invite entre nos quatre murs. Mes amis ont regagné leur lit depuis longtemps. Les yeux de Mercissé sont ouverts. Ses douleurs l'empêchent de dormir. Je savoure la lumière de la lune qui argente ses cheveux. Comme cette femme est belle. Ses yeux brillent malgré la nuit, obstinément. Ils sont ardents. Elle est plongée dans ses songes. Un fils en prison, deux morts dans la guérilla. Elle vivait seule dans son village. Comment peut-on jeter une femme de 80 ans en prison? C'est invraisemblable. Juste à côté de Mercissé, le bébé d'Ersim dort paisiblement, encore accroché au sein de sa mère, allongé sur le lit superposé. Mercissé et Dersim sont dans le même cadre. L'une est grave comme peut l'être la vie, et l'autre une petite pousse fraîche qui commence à peine la sienne. Ni l'une ni l'autre ne sont à leur place dans cette geôle, vraiment pas. Que fait une mère âgée dans ce lieu? Et des barreaux, devraient-ils être la première vision d'un petit bébé? Tous les jours, matin et soir, lorsqu'on nous compte comme des moutons, Dersim se réfugie entre les jambes de sa mère, yeux grands ouverts. Il scrute les gardiennes avec étonnement. C'est peut-être à ces femmes aux bottes noires qu'elle associe l'emprisonnement. Qui sait? Voir que les repas sont servis par un guichet tous les jours aux mêmes heures, que le pain est distribué, s'habituer à communiquer à travers un regard d'égout, mener une vie toujours au même endroit et régler comme du papier à musique. Tu peux imaginer quel manque énorme ce doit être pour un bébé de ne pas voir les arbres, la montagne, les étoiles? Ces extraits vous ont-ils plu? Et parce qu'il est important de finir sur une touche d'espoir et de joie, on vous invite à vous laisser bercer par la voix grave et douce de Jem Karaka, qui chante Sevda Kouchoun. Ce titre signifie l'oiseau d'amour, et Zeradoan choisit de donner ce titre à son fameux dessin d'oiseau « Femme » qui figure sur son roman graphique « Prison numéro 5 ». Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Le prochain podcast sera consacré à l'écrivaine mexicaine Laura Esquivel.